bonne fin de journée sur RVE, il est 18h.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Pendant une heure, Jean-Michel Beauregard recevra une personnalité du milieu politique, économique, culturel, sportif. Rencontre avec.
C'est Jean-Michel ce soir, rencontre avec.
Rencontre avec aujourd'hui Jean-François Bessé, vous êtes rédacteur en chef, Jean-François, rédacteur en chef adjoint du magazine Golf Européen. Alors, quelles sont vos responsabilités au sein de cette rédaction ?
Alors, la rédaction en chef adjoint signifie que je suis travaille en collaboration avec le rédacteur en chef de Golf Européen, Christian Deguerre, pour élaborer la ligne éditoriale du magazine, l'appliquer mensuellement et travailler en collaboration avec les journalistes, pigistes et tout le secteur de la fabrication, secrétaire de rédaction, directeur artistique, maquettiste.
Alors, présentez-nous un petit peu ce magazine. Combien de journalistes, de correspondants, de pigistes ? Qu'a-t-il de plus, par exemple, que son concurrent Golf Magazine ?
Alors, Golf Européen est un magazine très ancien, puisqu'il date de 1971. C'est le plus ancien magazine de golf français. Il est la reprise de Tennis et Golf, qui est le premier journal de golf français, qui a été fondé par Pierre Daninos en 1914 et qui avait été racheté en 1971 par Gaëtan Bourgeois-Dalgues et Dominique Motte, qui ont changé son nom. Donc on peut quasiment dire qu'on a plus de 90 ans d'âge dans la continuité. Golf Européen est un magazine qui est centré sur l'univers des champions. C'est-à-dire que nous couvrons les tournois majeurs, nous faisons des interviews, nous centrons la technique, le matériel et les reportages sur l'univers des champions et afin de permettre aux lecteurs de connaître plus profondément la vie des joueurs comme Tiger Woods, Annika Sörenstam, ou les Français comme Thomas Levet, Jean Van de Velde, et d'arriver à plus d'identification dans leur pratique et dans leur plaisir du golf.
D'accord. Bien, alors vous devez coller forcément avec l'actualité du golf, hein, non seulement en France, mais aussi dans le monde. Alors comment vous organisez-vous pour vous déplacer
Alors,
je suppose que vous suivez tous les tournois majeurs, c'est-à-dire
la quasi-totalité. On ne suit pas la totalité des tournois majeurs, mais au moins la moitié, historiquement, qui sont le Masters et l'Open britannique.
Ouais.
Selon l'actualité, selon les événements, selon ce qui s'est passé au Masters, on ira à l'US Open, on peut aller à l'US Open, on peut aller à l'USPGA. On couvre aussi les Open en France, Open de France, Evian Masters, Open de France féminin, Open de Saint-Omer, et aussi les grands événements internationaux par équipe, comme la Solheim Cup ou la Ryder Cup. C'est vrai que le golf européen va évoluer vers une nouvelle formule, et on s'oriente vers la couverture d'un événement mensuel, ce qui signifie que l'on va se déplacer sur un tournoi, un des plus grands tournois du mois, ou alors de la saison régulière, ou alors ça peut être un tournoi de fin de saison, ce qu'on appelle de la silly season, pour montrer sous un angle magazine ce que c'est un grand tournoi de golf de l'intérieur.
D'accord, c'est-à-dire
aussi bien sur l'angle sportif que sur l'angle purement magazine.
Oui.
Alors ça peut être par exemple l'Open de Phoenix, qui est un Open de catégorie moyenne du circuit américain, mais qui a la particularité d'être le tournoi qui a le plus de spectateurs au monde, puisqu'on dénombre à peu près 500 000 spectateurs sur la semaine tournoi-là.
Ouais.
Et c'est par exemple, voilà, c'est un tournoi qu'on peut couvrir non pas pour son intérêt sportif, mais pour montrer l'engouement d'un tournoi aux États-Unis, pour montrer que ce tournoi-là remplit 5 Camp Nou de Barcelone, par exemple.
Ouais,
et ça, personne ne le sait et personne n'imagine que le golf
peut drainer autant
de spectateurs, autant de fans.
Alors, vous allez vous immiscer dans l'organisation un petit peu pour voir comment ça se passe sur le plan organisationnel, je dirais.
Oui, par exemple, quand on fait le Masters, là, on se concentre sur le plan purement sportif du Masters. Sur un Open tel Phoenix ou tel ou le tournoi par exemple organisé par Tiger Woods, le Target World Challenge, ça va être on va s'intéresser à l'aspect sportif et aussi plus à l'aspect à l'intérieur, au cœur de l'organisation.
C'est-à-dire l'accueil du public.
L'accueil du public et aussi avec le public, parce que le public, c'est passionnant d'être avec eux, de le suivre, de les écouter, ouais. de savoir quelle est leur motivation.
D'accord. Et vous vous déplacez à plusieurs dans un cas pareil où
alors on part généralement avec un photographe. Ouais. Un journaliste, un photographe, ou si un photographe n'est pas disponible, on travaille avec les agences telles que Getty, qui couvrent quasiment tous les événements de golf du monde.
D'accord. Bon, alors, ce magazine n'est pas seulement un miroir des compétitions, on vient de le dire, hein, mais également, vous devez aussi de renseigner vos lecteurs tant au niveau de l'évolution du matériel, par exemple, ou de les aiguiller vers des destinations golfiques un peu paradisiaques. Ça vous arrive aussi ?
Absolument.
C'est-à-dire que vous allez enquêter sur un golf
On a dans chaque mois, on a à peu près 16 à 17 pages de tourisme. Qui s'articule entre le tourisme dans le monde ou en Europe et du tourisme en France. On essaye de faire découvrir donc les nouvelles destinations pour les golfeurs, puisque depuis une vingtaine d'années, il y a eu le golfeur français devient golf trotteur. Il se déplace comme les Anglais, les Suédois et les Allemands, et donc part en vacances à l'autre bout du monde jouer au golf. Donc on essaye de lui faire découvrir, de défricher certaines destinations afin qu'ils puissent partir en vacances et avoir de nouveaux horizons golfiques. Donc ça nous amène à voyager un peu partout dans le monde. Ça peut être les plus lointaines destinations comme Nouméa, comme Hawaï, comme l'Asie, aussi les destinations traditionnelles des golfeurs français comme Maurice, Maroc, Dubaï aujourd'hui. Ou alors aussi des fois aller dans des destinations vraiment inconnues comme la Birmanie, comme le Kazakhstan, voilà, défricher de nouvelles destinations.
Et alors, est-ce que ça pourrait faire l'objet par exemple d'un guide golf européen ? Est-ce que vous pourriez éditer dans l'avenir un guide justement sur ces golfs un petit peu paradisiaque ou bien alors méconnu, complètement méconnu comme
absolument,
la Birmanie.
Absolument, ça pourrait être une direction qui n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour, mais qui peut être envisagée.
Oui, parce que vous avez la possibilité de le faire.
Là, oui, on a la matière. Ouais, on a la matière aussi bien photographique que dans de reportage, que de vécu, pour pouvoir faire effectivement un guide un petit peu soit de destinations insolites, soit des destinations phares des golfeurs français.
D'accord, et puis même peut-être voir les à côté aussi, c'est-à-dire l'accueil hôtelier, la restauration, etc.
Quoi. Bien sûr, donc quand on fait des papiers, des articles tourisme, surtout l'article principal qui fait environ 10 pages, il y a deux pages consacrées à l'encadré pratique qui concerne aussi bien le golf que l'après-golf, c'est-à-dire l'hébergement, la restauration et aussi tout ce qu'il y a à faire dans un pays ou dans une ville dans lequel on est.
D'accord. Bien, alors on va s'arrêter maintenant un petit peu sur le matériel. Même j'aimerais longuement sur l'évolution du matériel, qu'on s'y arrête un petit peu longuement, parce que l'évolution du matériel, c'est quand même depuis une trentaine d'années quelque chose de phénoménal, quoi.
Absolument. Ouais.
Alors, comment vous faites ? Vous testez le matériel ? Vous vous faites prêter des séries des séries ou des balles de golf, même, peut-être ?
Oui, on se fait prêter le matériel, ou on l'emprunte dans les magasins, auprès des fabricants. Et on essaye de tester en grandeur nature chaque produit. Alors c'est pas évident parce que tester du matériel, c'est très subjectif. Il y a l'argument du fabricant qui lui a son argument marketing, à son argument de vente, qui a fait aussi des tests robots, des tests de comparaison avec les autres marques. Et puis il y a le test subjectif du consommateur, c'est-à-dire vous avez un club en main, est-ce qu'il vous plaît esthétiquement, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec, est-ce qu'au moment où vous allez taper, est-ce que vous allez avoir un bon feedback, un bon feeling avec, est-ce que vos performances vont être optimisées par le club. Alors c'est très difficile de répondre à ça parce que c'est lié à plein de paramètres. Un paramètre qui est lié à la forme du jour. Est-ce que ce jour-là, je swing bien? Est-ce que j'ai une bonne technique? Est-ce que la technique que j'ai ou la forme que j'ai ce jour-là va permettre d'avoir une optimisation de mon club? Des fois, vous arrivez, vous avez un très bon club en main et puis vous tapez mal et donc vous pensez que le club n'est pas bon. Des fois, vous, au contraire, vous tapez merveilleusement bien un club peut-être qui est moyen techniquement ou technologiquement moyen et vous allez être subjugué par ce club-là. C'est très difficile, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et c'est pourquoi, par exemple aux États-Unis ou en Angleterre, il y a des tests robots qui sont faits, parce qu'il y a très peu de robots dans le monde qui sont capables de reproduire un swing à l'identique et qui font des tests de comparaison en mettant les mêmes paramètres pour chaque club, paramètres de vent, de vitesse d'impact de la balle, etc. Et qui va être effectivement comme un test que pourraient faire 60 millions de consommateurs, donc un vrai test comparatif. Mais simplement, c'est que ce test comparatif, c'est fait par une machine, et l'homme n'est pas une machine. Et l'homme est unique, et ce qui fait que son feeling avec le matériel va être unique. Et c'est pour ça que c'est pas évident. C'est la partie peut-être la plus difficile du magazine.
D'accord. Bon, parlons de cette évolution quand même du matériel, les matériaux, par exemple. Ça a bougé terriblement, ça.
Ah bah, il y a encore, j'irais presque un siècle, on a été encore aux manches en bois, en hickorie, on est passé aux manches en acier vers 1910, et puis après aux manches composites dans les années 70-80 qui a révolutionné le matériel. Après l'arrivée de l'ordinateur qui a permis aussi aux ingénieurs de travailler leur club sur ordinateur avant de le réaliser et d'essayer de trouver une équation entre la forme du club, le matériau et la performance qui va en découler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport au club d'il y a une trentaine d'années, on est arrivé à avoir des têtes de club beaucoup plus grosses, quasiment deux fois plus grosses, avec un déplacement des masses à l'intérieur de la tête, un travail sur le centre de gravité afin de permettre un vol plus optimal de la balle plus haut, donc gagner plus de distance. Les manches aussi ont fait beaucoup de progrès avec soit de nouveaux acides, soit de nouveaux graphites et l'arrivée du titanium. Et puis surtout, il y a aussi un progrès qui est moins perceptible parce qu'il n'est pas visible à l'œil nu. C'est la balle de golf, puisque la balle de golf est réglementée. Elle doit avoir un certain diamètre et un poids maximum. Donc elle est souvent blanche, donc elle n'a pas vraiment de différence l'une par rapport à l'autre. Ouais. Mais en termes de performance, on sait que les pros ont gagné 20 à 30 mètres grâce surtout aux balles de golf.
D'accord.
Plus qu'au matériel, plus qu'au club en tout cas. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Et c'est pour ça que certains tournois parlent de plus en plus de faire une balle unique comme en tennis. Alors qu'actuellement,
on choisit sa balle.
Chaque joueur peut choisir sa balle.
D'accord.
Et sa marque.
Ouais. Ça peut éviter les tricheries aussi.
Oui, ça peut éviter les tricheries parce qu'il y a eu des cas. Ouais. On sait qu'il y a eu des cas d'un joueur japonais qui ne laissait jamais les balles dans son sac parce qu'il jouait des balles qui n'étaient pas homologuées.
D'accord. Bien. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes un grand spécialiste du golf, est-ce que vous avez l'impression que cette évolution du matériel a fait progresser également les joueurs? Par exemple, un grand joueur comme Niklaus, par exemple, est-ce qu'il a progressé? Est-ce que le fait d'avoir un nouveau matériel l'a fait progresser? Est-ce qu'il joue mieux qu'avant? Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Niklaus, non, parce que Niklaus, il a vieilli. Il aura eu l'évolution du matériel quand il était au sommet de sa carrière dans les années 60-70. Nul doute qu'il aurait tapé plus fort et il aurait été plus précis.
Ouais.
Si on prend le cas de Tiger Woods, quand on regarde ses statistiques, a gagné en longueur de drive, surtout.
Ouais.
En précision beaucoup moins parce que en même temps ils ont gagné de la distance et actuellement le grand cheval de bataille des pros c'est la distance, c'est-à-dire taper de plus en plus fort. Pourquoi ? Parce que les joueurs professionnels expliquent que même dans un tournoi, par exemple aux États-Unis où les trous sont très longs, même les tournois en Europe, les joueurs tapent de plus en plus fort pour se laisser le moins de distance possible au deuxième coup. Qu'importe l'endroit où ils se retrouvent, ça sera toujours plus facile que d'être très court et de taper un très long coup au deuxième coup. Donc c'est la tendance, c'est ce que fait Vijay Singh, c'est ce que fait Tiger Woods de plus en plus, sortir le driver sur tous les trous, taper le plus fort possible pour se laisser le coup le moins long possible au deuxième coup.
D'accord.
Voilà. Ça c'est la stratégie actuelle des joueurs professionnels. Chez les amateurs, le progrès il est sensible, mais il est moins important que chez les pros, parce que le progrès dans le matériel est lié aussi à la vitesse de swing, c'est-à-dire à la vitesse à laquelle le club va revenir sur la balle au moment de l'impact. Plus la vitesse est grande, plus le club va être optimisé, plus ses performances vont être optimisées, plus on va obtenir de puissance. Et comme le joueur amateur a moins de vitesse que le joueur professionnel, il va gagner moins de distance sur le même coup. Si un joueur professionnel gagne, disons, 25 mètres grâce à un club ou des balles, un joueur amateur va en gagner entre 8 à 10 mètres. Mais 8 à 10 mètres pour un joueur amateur, c'est déjà beaucoup.
Oui, c'est même énorme. Ouais. Pour un joueur amateur, gagner 8 à 10 mètres, c'est énorme. Bien, on va observer une première pause musicale et publicitaire, et puis on reprend tout de suite après.
Quand je te revois, marmotte, je retrouve le vrai valeur. Un si grand cœur, une si belle, qui ne se soucie jamais de l'heure. Quand je pense qu'elle est comme ici de ce pays glacial, maintenant qu'elle vit au Kenya, celle africaine. Non, je ne connais pas l'Afrique. Aigrie est ma couleur de peau. La vie est une machine afrique. Oh, les affreux n'ont pas d'afro. Tous ces jeunes américanisés niquent de la tête.
Eh ouais.
Génération très très marquée. Maman, ça m'est coste. À cette époque où faire l'amour est en danger pour l'humanité. Il est honteux d'afficher Nico sur nos vêtements. Non, je ne connais pas l'Afrique. Aigri est ma couleur de peau. La vie est une machine afrique où les affreux n'ont pas d'afro. Maman, cette fois c'est décidé. M'éloigner de Paname me fera le plus grand bien. Et si ça se trouve, je ne reviendrai jamais. Je serai le plus blanc mec de tous les Africains. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas l'Afrique. Aigri est ma couleur de peau. La vie est une machine afrique. Où les affreux n'ont pas d'afro.
Tricote, 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 c'est. Ambiance, 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 c'est. Chicken, chicken, chicken.
Ma couleur de peau. La vie est une machine afrique. Où les affreux n'ont pas d'afro. Attention, attention.
Rencontre avec.
Donc vous êtes toujours à l'écoute de RVE et vous avez bien raison. Alors, nous sommes, je vous le rappelle, en compagnie de Jean-François Bessé, qui est le rédacteur en chef adjoint du magazine Golf Européen. Et on en arrive à la deuxième partie. Alors, quelle est justement la partie la plus intéressante de votre métier, Jean-François Bessé ? Les interviews des grands joueurs, les grands dossiers, la couverture des grandes compétitions ? Dites-nous un petit peu.
C'est difficile à répondre parce que tout est passionnant. Les interviews, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un dialogue avec un joueur, donc c'est une rencontre humaine et c'est toujours passionnant pour ça. Mais le plus intéressant, disons, pour notre métier, c'est de sortir de la rédaction, parce que c'est là où on rentre dans le monde du golf, on rencontre les gens, on apprend, on obtient beaucoup d'informations.
Le terrain, quoi.
Le terrain. Donc c'est effectivement couvrir des grands tournois et aussi découvrir des pays ou des destinations quand on fait du tourisme. Mmh. Les destinations, il y a des pays que j'ai découverts qui étaient extraordinaires, que je ne connaissais pas.
Mmh. Par exemple ?
La Birmanie, ouais. Qui est un pays ou le Myanmar, comme on dit maintenant, qui est un peu décrié par la communauté internationale, mais qui est un pays fantastique quand vous y allez, et qui aussi possède des golfs, ce qui est très étonnant. Mais c'est surtout les tournois, par exemple, quand vous découvrez des tournois majeurs, comme le Masters, comme l'US Open, l'Open britannique, avec la ferveur que cela entraîne, c'est... Vous arrivez vraiment dans un nouveau monde et vous avez des yeux d'enfant et vous regardez ça et c'est fantastique. Puis vous voyez surtout les meilleurs joueurs du monde. Ça. Et côtoyer les meilleurs joueurs du monde, ça vous apprend beaucoup pour votre métier et pour votre propre golf aussi.
Oui, parce que je rappelle que vous êtes golfeur et pas un petit golfeur, puisque votre handicap est aux alentours de 10.
C'est ça. Même... Oui, 10, c'est moyen. Ouais.
C'est déjà pas mal.
Bonne expérience. Ouais.
Bon, est-ce qu'on peut dire quand même que vous faites un métier privilégié ?
Métier formidable.
Ouais.
Oui.
Ouais, d'accord.
C'est un métier formidable parce que c'est vrai que quand je réfléchis je me dis mais quel autre type de presse ou quel autre type de magazine pourrait me donner cette opportunité de faire tout ce que j'ai fait depuis plus de 10 ans. Je n'en connais pas beaucoup.
Alors justement, Jean-François Bessé, en tant que partie prenante de la rédaction, de la direction de la rédaction, vous avez autorité sur votre équipe de journalistes et vous devez de répartir les tâches. Alors comment faites-vous pour ne léser personne dans les différentes destinations où vous les envoyez ? Parce que le Master d'Augusta, c'est pas l'Open de Trifouille-les-Oies, quoi.
Non.
Alors comment vous faites là ?
La politique à Golf Européen, c'est de faire tourner les journalistes sur les grands événements. C'est-à-dire que...
Il n'y a pas un spécialiste du grand événement.
Que ce soit le rédacteur en chef ou le rédacteur en chef adjoint, on ne se garde pas les tournois majeurs pour nous.
Ouais, c'est un petit peu la question que j'allais vous...
On les a peut-être plus souvent que les autres journalistes, mais on les envoie aussi et sur le Masters ou sur l'Open britannique ou sur d'autres événements.
Ouais.
Parce que c'est très important pour eux, pour leur culture personnelle, et d'avoir vécu ça.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on tourne. Par exemple, cette année, je suis allé au Masters. Un autre journaliste va aller à l'Open britannique. Un autre journaliste va aller à la Ryder Cup. Moi, je vais refaire aussi les vieux Masters. Peut-être l'Open de France. Donc, on se partage. Entre
d'accord.
eux, on est 4, disons, à la rédaction, et on se partage les événements entre nous quatre.
Donc personne n'est lésé.
Personne n'est lésé.
Très bien. Alors, quelle approche avez-vous de la fameuse sacro-sainte démocratisation du golf ? Parce que on en parle beaucoup, mais comme Seran, on ne voit pas grand-chose venir. Quoi. On parle de cette démocratisation depuis 15 ans. Enfin, moi, depuis que je joue au golf, ça doit faire 25 ans. J'entends toujours des gens dire « mais ça se démocratise », mais je ne le vois pas.
Oui, mais est-ce que c'est le terme bien choisi ? Démocratisation, ça a plus un sens politique que sportif, mais j'irais plutôt popularisation du golf.
Si vous voulez.
Effectivement, par rapport, disons, aux années 70, où le golf, là, était vraiment très, très fermé, on a constaté depuis les années 80, évidemment, une arrivée massive de licenciés qui ne venaient pas forcément des mêmes couches socio-professionnelles que dans les années 60-70. La construction des parcours un peu partout en France, qui a fait baisser les prix de la pratique. L'intrusion aussi du golf à l'intérieur des entreprises grâce aux associations sportives a énormément développé, et c'est ça qui a permis la popularisation de ce sport. Ça ne veut pas dire que ce sport est maintenant un sport populaire, c'est pas vrai, parce que on a environ entre 400 000 à 500 000 pratiquants. C'est encore faible par rapport à d'autres pays. En tout cas, on peut trouver aussi que les prix de la pratique sont encore trop élevés, en tout cas pour les jeunes générations.
Ouais.
Et puis pour la tranche d'âge de 20 à 30 ans qui ne sont pas encore vraiment bien insérés dans la vie professionnelle. Mais c'est vrai que pour un type de population plutôt vers à partir de 40 ans, c'est vrai, plus installé dans la vie, ou pour les gens qui sont partis à la retraite, c'est une opportunité formidable. Et qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Car il y a... effectivement, souvent, quand on parle du manque de démocratisation du golf, on pense beaucoup à l'Île-de-France. L'Île-de-France est un peu une région à part. Car à Paris, il n'y a pas d'infrastructure sportive. En tout cas, on peut pas jouer au golf à Paris, parce qu'il n'y a pas de golf intramuros, en tout cas, alors qu'il y en a à Londres ou il y en a dans d'autres capitales. Le prix de la pratique est très élevé. Vous êtes obligé d'avoir une voiture pour aller jouer au golf parce que quasiment aucun n'est accessible en transport en commun. Donc effectivement, c'est un frein à la pratique. Et jusque il y a une vingtaine d'années, les golfs étaient fermés physiquement, c'est-à-dire qu'il fallait sonner à des interphones pour y rentrer. Personne n'osait rentrer dans cette espèce d'espace sacro-saint. Alors que maintenant, les opérations portes ouvertes, les opérations golf gratuites, il y en a de plus en plus le week-end dans tous les golfs de France, fait que les gens osent maintenant franchir les portes, osent pratiquer. Et puis aussi, on constate que l'arrivée aussi des chaînes câblées, sportives, qui diffusent du golf en permanence, fait que le golf est devenu un sport comme un autre. Donc on dédramatise plus ou moins la pratique de ce sport. Et aussi, on constate aussi de plus en plus l'utilisation du golf dans l'image publicitaire. Et c'est vrai que en prime time, vous pouvez avoir des pubs pour que ce soit des voitures, pour d'autres choses, qui véhiculent une image de golf, qui fait aussi que le golf rentre de plus en plus dans la vie quotidienne. Et c'est comme ça qu'on va arriver à la popularisation du golf.
Vous voulez dire qu'il y a une vulgarisation du sport dans le milieu... D'accord.
Dans tous les milieux.
Alors, une autre question concernant justement... l'aide à la popularisation du golf. Est-ce que ces fameux golfs compacts qu'on trouve dans les villes et qui sont en parallèle quelquefois avec un parcours de golf traditionnel, est-ce que ça a apporté ses fruits?
Ça, c'est une réponse. Ça n'a pas encore porté ses fruits parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Ouais. Mais ça, c'est une réponse justement pour arriver à cette expansion du golf.
Ouais.
C'est ce qui existe depuis longtemps déjà en Irlande, et puis c'est une politique qui est suivie par la Catalogne, par exemple en Espagne, c'est de faire des petits parcours, disons miniatures, c'est-à-dire où les trous font entre 60 et 100 mètres,
c'est ça.
Donc qui ne coûtent pas cher à construire, pas cher à entretenir, et pas cher à pratiquer. En Irlande, vous trouvez par exemple dans toutes les villes ce qu'on appelle les pitch and putt, où vous payez l'équivalent de 2 euros pour jouer, et ça vous prend une heure, donc ça prend peu de temps. C'est quand même du golf, vous devez swinger comme au golf, vous avez du matériel, vous avez des balles, et ça permet aux gens de venir à la pratique un petit peu d'une manière soft par ce biais-là. Et en plus, c'est que comme ces golfs ne prennent peu d'espace, ils peuvent s'insérer dans le tissu urbain. Alors qu'un grand golf, il faut trouver 30, 40, 50 hectares, et ça, c'est plus difficile. Et quand vous voyez l'exemple, la réussite du golf de la Poudrerie à Sevran, dans la Seine-Saint-Denis qui ne possédait qu'un 9 trous jusque-là, maintenant à ce golf compact urbain qui marche très très bien, car il est intégré dans le parc départemental de Sevran, à l'intérieur de la banlieue du 9-3, Et on voit de plus en plus de gens qui ne seraient jamais venus au golf et qui ont essayé et qui sont mordus maintenant grâce à ces golfs compacts urbains. Donc je pense qu'il faut absolument que ça se développe en France et qu'il y ait une centaine de golfs compacts urbains comme il y a 500 ou 600 golfs, disons, traditionnels.
D'accord, d'accord. Je me souviens, Jean-François Bessé, au cours d'une discussion qu'on avait eue ensemble, où je vous parlais des golfs miniatures cette fois-ci, des golfs miniatures qu'on trouve un petit peu dans les campings, etc. Et vous m'aviez dit, mais il ne faut pas en rigoler parce que ça peut être très très intéressant pour le golf.
Bien sûr.
Alors expliquez-nous un peu. Parce que moi j'avais été très surpris quand vous m'aviez dit ça.
Personnel, moi j'ai découvert le golf ou au moins le mot de golf en jouant au golf miniature quand j'étais petit. Ouais. Quand j'étais en vacances sur un golf miniature sur gazon, ce qui était très rare, ce qui est rare parce que je crois que ça n'existe plus en France. Et ça m'a appris à putter, ça m'a appris un des mouvements ou une des choses qui du jeu de golf, c'est-à-dire le taper la balle pour la faire rentrer dans le trou. J'ai appris ça par le golf miniature et après j'ai eu envie de jouer au golf et j'ai joué au golf. Et je me suis aperçu que le golf miniature qu'on rencontre dans toutes les stations balnéaires, qu'il soit sur du ciment, qu'il soit sur de la terre battue ou qu'il soit sur du gazon ou du synthétique, c'est aussi un formidable outil de promotion du golf. Parce que c'est pareil. D'abord, ça s'appelle du golf. Et ça permet de faire le passage plus facilement entre le golf miniature et le golf où on tape des vrais coups. Et puis ça permet aux gens, à toutes les couches de la population, à toutes les catégories socio-professionnelles, de jouer et de s'essayer à ce jeu qui n'est pas encore un sport, parce que le golf miniature est plus un jeu, et puis petit à petit, qui peut être aussi une manière de les amener à la pratique du golf. Et c'est un formidable outil ludique, ça coûte rien, ça coûte pas cher, ça se fait aussi pareil dans un temps très limité, et moi je suis persuadé que le golf miniature est aussi un des moteurs pour développer le golf en France. Mais pour l'instant, je suis très peu entendu sur cette question-là.
Oui, parce que j'avais été très, très surpris. Moi. Mais il existe, je crois, un championnat de golf miniature.
Bien sûr, il y a des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde.
Ouais.
J'ai rencontré l'équipe de France de golf miniature qui s'entraînait donc près de Paris. Et c'est vrai que c'est là, à peu près 80% des gens qui constituaient cette équipe n'étaient pas golfeurs, allaient se mettre au golf parce que ils avaient envie, ça leur donnait envie d'essayer le vrai golf. Mais le golf miniature, ils étaient d'une habileté extraordinaire. Ouais. Et c'est vrai qu'il existe un championnat du monde où là, vous devez, pour le gagner, faire quasiment 18 trous en un. Donc les golfs sont conçus pour pouvoir taper chaque trou en un coup. C'est très codifié. Il faut que la surface soit homologuée. Il faut que les obstacles soient homologués. Quand vous voyez le golf miniature au niveau international, les joueurs se promènent avec des valises, avec une centaine de balles. Et selon la qualité, selon l'obstacle, selon la surface, ils vont utiliser des balles avec plus ou moins de rebond pour pouvoir faire le 3 en 1. Chose que vous ne voyez pas quand vous jouez dans un golf miniature de vacances, on vous donne une balle et un club. Voilà.
Et en club, pas toujours adéquat.
Et c'est là où vous apercevez que c'est une autre pratique. Le golf miniature à ce niveau-là, quasiment au niveau professionnel.
Et vous en avez déjà fait écho dans Golf Magazine?
Golf Européen, oui.
Excusez le lapsus.
On a déjà fait l'écho, mais pas suffisamment. Je pense que ça mériterait un beau dossier et un joli reportage, en tout cas, sur les gens qui pratiquent ce sport à haut niveau.
D'accord. D'accord. Moi, je vais être attentif. je vais être attentif parce que je suis relativement curieux d'aller voir un championnat. Quoi. Ouais. Si par hasard ça se trouvait dans la région parisienne, j'y cours demain matin. Alors,
je crois que, je ne sais pas s'il peut y avoir une région parisienne, je crois qu'il n'y a plus qu'un club qui est homologué au niveau européen en région parisienne, mais il y en a beaucoup en Italie, en Allemagne. Ouais. En Allemagne, je crois que c'est un jeu ou un sport très pratiqué.
Ouais.
Ils ont beaucoup de licenciés en France, c'est un peu anecdotique au niveau, au niveau professionnel.
Et vous pensez que ça peut permettre de progresser dans le putting ?
Oui, absolument, ouais. Parce que vous avez toujours une balle, un club, un objectif, ouais. Et même si vous devez passer en dessous les châteaux, passer sur un pont, il faut viser, taper, réussir le coup.
D'accord, et se concentrer.
Qu'importe les surfaces.
Ouais. La concentration aussi.
Bien sûr.
Bien, alors on parlait de la popularisation du golf. Est-ce que cette popularisation, je dirais, est vraiment souhaitable, compte tenu que les infrastructures ne sont pas démesurément extensibles, et de plus, alors là, vous allez nous en parler précisément, l'étiquette risque d'en pâtir un petit peu. D'abord, avant de répondre à cette question, donnez-nous votre définition de l'étiquette et votre conception pour la préserver. Ça, c'est très important.
Alors, l'étiquette, c'est un code de comportement. Quand vous arrivez sur un golf, que vis-à-vis du parcours que vous devez respecter et de son environnement, vis-à-vis de l'éthique du jeu et vis-à-vis aussi de vos partenaires de jeu. C'est-à-dire comment vous comportez pour ne pas les gêner, comment vous comportez pour ne pas esquinter ou détruire le parcours sur lequel vous jouez, car bon, jouer n'est pas innocent pour le parcours, donc il faut savoir le réparer, et puis aussi par rapport à l'éthique, ça veut dire aussi ne pas tricher, savoir respecter les règles, voilà, pour moi tout ça, l'étiquette, c'est tout ça. Alors effectivement, la popularisation du golf va-t-il entraîner la mort de l'étiquette ? Mmh. Ça, c'est un vaste débat. Il y a de fortes chances que oui, parce qu'on le voit dans tous les autres sports. Il y a une trentaine d'années au tennis, tout le monde était habillé obligatoirement en blanc. Aujourd'hui, les tennismen s'habillent n'importe comment. Mmh. En golf, il y a pour l'instant encore beaucoup de clubs qui demandent un code vestimentaire, que ce soit pas de jeans, pas de polo sans col. Et puis de plus en plus, on voit que le jean s'introduit dans les clubs, que le pull sans col est même adapté et même adopté par les joueurs professionnels qui ont valeur d'exemple. Et puis on voit aussi des comportements des fois un peu limites de joueurs actuellement sur le parcours, des joueurs qui ne pensent qu'à eux, qui sont très individualistes et qui oublient que le parcours, que la nature, que leur partenaire existe.
Vous parlez du plus haut niveau là ?
Non, je parle là des niveaux amateurs, des joueurs du dimanche.
Ouais, d'accord.
Alors comment faire respecter ça, c'est assez difficile puisque l'étiquette n'est pas une règle. C'est un code de conduite mais qui n'est pas sanctionnable. Pour l'instant, même si vous avez si vous manquez des fois un petit peu de respect pour vos partenaires, vous n'aurez pas de pénalité. Donc comme il n'y a pas de sanction, effectivement c'est difficile de pouvoir la faire appliquer. Mais ça c'est un... Ça s'apprend très tôt chez les jeunes, grâce aux écoles de golf. Les professeurs de golf, en plus de la technique, font un travail pédagogique sur l'étiquette. Mais en revanche, quand on s'adresse aux adultes qui arrivent dans le golf entre 20 ans et 50 ou 60 ans, si vous avez des gens dans la vie, qui dans la vie, même quand ils conduisent, respectent les autres, en général, ils respectent les gens sur le parcours.
D'accord.
Et quand vous avez des conducteurs au volant qui ne respectent rien, ceux-là, quand ils vont se mettre au golf, ils ont de fortes chances de ne pas respecter de l'étiquette non plus.
D'accord.
Voilà, alors, Est-ce qu'on va vers la disparition d'étiquettes? Non, parce qu'il y a toujours des gens qui savent se comporter en société, mais il y aura toujours cette part de gens qui ne respecteront rien.
D'accord.
Et effectivement, peut-être qu'un jour, il faudra arriver à un arsenal de sanctions, mais j'espère que non.
Bien. Tiens, à ce sujet, quelle est votre attitude si vous avez... dans votre partie, dans la partie où vous jouez, un joueur qui triche, qu'est-ce que vous faites? Et vous vous en rendez compte, évidemment.
Oui.
Alors, quelle est votre attitude, là?
Ah, mon attitude, bah, c'est de lui signaler qu'il n'a pas respecté la règle. Alors, soit il triche, on peut tricher pour plusieurs raisons.
Oui, bien sûr.
On peut tricher parce qu'on ne connaît pas les règles. Les règles sont assez compliquées, quand même. Donc on ne les connaît pas, donc on triche, voilà.
Par oui, mais celui-là, c'est le tricheur involontaire. Là.
Involontaire
on va l'appeler comme ça.
Voilà. Hein. Et puis, donc celui-là, c'est juste un travail pédagogique à faire. Lui expliquer que dans ce cas-là, il ne doit pas faire ci ou ça, donc voilà. Et lui appliquer la pénalité d'usage. Et puis, il y a le tricheur pathologique qui ne peut pas s'en empêcher. Ceux-là, en général, on les connaît, on les surveille. Et si je me trouve dans une partie où il y a un tricheur pathologique, je regarde, je suis très attentif à ce que font tous mes partenaires sur une partie en général, donc je fais plus attention et je sanctionne puisque le golfeur ne note jamais sa carte de score,
oui, bien
sûr. Elle est donnée à son partenaire, donc le partenaire peut infliger une sanction et, et après il suffit de se mettre d'accord à la fin pour signer la carte. Mais le désavantage avec un tricheur pathologique, c'est que comme vous êtes obligé de vous occuper et de regarder tout ce qu'il fait, bah, vous oubliez de
vous concentrer,
et de jouer votre propre jeu.
Ça vous est arrivé souvent ?
Ça m'est arrivé, oui.
Ouais.
Ah, oui. De voir... tricher, c'est toujours à peu près les... On triche toujours de la même façon.
Hein. Ouais.
C'est toujours des balles se retrouver par miracle.
Ouais.
Ce sont des balles déplacées d'un coup de pied ou d'un coup de club, voilà. Ce sont des scores qui sont
annoncés un peu farfelus.
Ce sont des manières de marquer les balles sur les greens pour s'avancer de 10 ou 15 cm. Voilà, c'est des choses qu'on connaît, on sait tous comment on fait et on sait tous comment ils font. Donc il suffit d'être vigilant. Mais c'est très embêtant parce que c'est vrai que ça vous pourrit une partie.
Oui, et en plus, ça ne leur rend pas service non plus à eux.
Non,
hein, parce que si leur index diminue, de toute façon, ça va durer qu'un temps. Quoi.
Hein? Ouais, c'est dommage, parce que soit c'est des gens qui ont une surestimation de soi, c'est-à-dire qu'ils s'estiment plus forts qu'ils ne le sont, soit qu'ils ne sont pas capables d'accepter l'échec. Alors, c'est dommage pour eux, parce que, en général, quand ils trichent au golf, ça leur arrive de tricher dans la vie aussi.
D'accord. Bien, avant de passer à la troisième partie, on va adopter une nouvelle pause musicale et puis on reprend tout de suite après.
Thank you.
Rencontre avec.
Alors vous êtes toujours à l'écoute de RVE. Et vous avez bien raison parce que cette émission est intéressante. Si vous ne connaissez pas le golf, ben vous aurez quelques idées plus précises à la sortie. Alors, je suis en compagnie de Jean-François Bessé, hein, je vous le rappelle. Jean-François Bessé, c'est le rédacteur en chef adjoint de la revue, du magazine Golf Européen. Alors Jean-François, autre volet de votre personnage, vous présidez l'APG. L'APG, c'est l'association Presse et Golf. Alors, quelle est la philosophie de cette association qui existe depuis plusieurs années et quel en est le but ?
Alors cette association existe depuis même près de 20 ans, hein, je crois. C'est un regroupement de personnalités ou de gens qui travaillent dans les médias et dans la communication et qui ont une passion commune qui est le golf. Cette association qui s'appelle donc l'association de la presse et du golf regroupe aussi bien des journalistes, donc deux tiers de journalistes, c'est statutaire, et un tiers de gens qui travaillent autour des médias.
Autour des médias, d'accord.
Mais qui ne possèdent pas de carte de presse. Mmh. Et chaque année, on a un calendrier à peu près de 18 à 19 épreuves, aussi bien individuelles que par équipe.
Alors là, c'est très sérieux, là.
Voilà, qui permet de nous regrouper. De vivre notre passion et de jouer en compétition. Et en général, ces compétitions ont lieu en semaine. Et nous avons aussi des rencontres contre des associations similaires, allemandes, belges, italiennes et anglaises.
D'accord.
Qui sont des matchs à couteau tiré chaque année. Mmh. Et on édite un annuaire pour les membres de notre association. C'est vraiment un... Et on a aussi un site internet qui est le lien, qui est notre lien entre tous. Et on va justement, dans les prochaines semaines, je pense, même faire un forum sur notre lien, sur notre site internet, pour qu'il y ait un peu plus d'interactivité à l'intérieur de notre association.
D'accord. Donc, on l'a compris, les compétitions au sein de cette association sont très très disputées puisqu'il y a un ranking, il y a un classement qui permet la qualification pour justement la fameuse Ryder Club et non pas Ryder qui a lieu tous les ans une fois dans les îles britanniques et une fois en France. Hein, c'est ça. Alternativement. Et ces compétitions servent de qualification pour cette fameuse Ryder Club, qui est basée exactement sur le principe de la Ryder.
Hein. Oui, c'est la plus ancienne de nos compétitions par équipe.
Ouais.
C'est la plus prestigieuse et la plus disputée, aussi bien du côté anglais que du côté français.
Ouais.
C'est vrai que puisqu'on a une équipe de 16 joueurs, pour pouvoir les sélectionner, on a instauré un système de ranking, de classement lié aux résultats dans les compétitions. Et c'est vrai que l'instauration de ce ranking a entraîné une sportivité accrue, en tout cas de nos membres, et une envie, en tout cas, de jouer, de s'améliorer pour pouvoir avoir
participer
le plaisir
un
de faire
jour.
Partie de cette équipe. Et moi, qui ai fait partie de cette équipe à plusieurs reprises, je peux dire que c'est une compétition formidable, avec un esprit formidable. Vivre pendant 3 jours avec nos homologues anglais autour de notre métier et autour de notre passion est fantastique.
Ouais, c'est sûr. Bien, Jean-François Bessé, cette émission commence à tirer à sa fin. Vous voyez, ça passe vite, hein, quand on parle d'une passion. Alors, pour mieux cerner votre personnalité, Jean-François Bessé, nous allons nous amuser à une série de questions-réponses rapides, très rapides. D'abord, ça va détendre un petit peu l'atmosphère. Alors, vous êtes prêts ?
Oui.
Alors, Paris ou province ?
Paris pour le moment, mais province plus tard.
D'accord. Bouffe entre copains ou resto gastro ?
Bouffe entre copains.
Voiture ou transport en commun ?
Voiture.
Ciné ou DVD ?
Je préfère le cinéma, mais le temps des fois me manque pour y aller. Mais je préfère le... plein écran et la salle obscure que le cinéma chez soi où on manque d'attention par rapport à ce qui se passe à l'écran.
Bien. Jean ou costard ?
Jean. Je me sens plus à l'aise.
Ouais. Chien-chat ou poisson rouge et hamster ?
Chien-chat. Hein. J'ai les deux.
Alors celle-là, je l'ai piquée à un confrère, mais elle m'amuse. Emmanuel Béart ou Sœur Emmanuel?
Emmanuel Béart, bon. Pour la plastique.
Ok.
Mais Sœur Emmanuel pour son engagement social.
D'accord. Et comme j'ai entendu une réponse l'autre jour, Emmanuel Béart la nuit et Sœur Emmanuel le jour. C'est pas très élégant, mais enfin.
Ouais.
Bon, voilà, bah, cette émission est terminée. Alors, Jean-François Bessé, juste avant de conclure, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée?
Non, non, vous avez tout posé, c'est très bien.
Bon.
Je vous remercie.
Parfait. Non, c'est nous qui vous remercions, Jean-François Bessé, et puis bon vent. Il y a encore pas mal d'épreuves, notamment l'Open de France qui oui. se dessine et qui va avoir lieu au mois de juin.
L'Open de France, l'Open britannique, l'Open Masters, l'été est très chaud.
Oui, absolument.
Ouais.
Bien, bon courage et puis merci encore.
Merci.
Et vous, je vous retrouve la semaine prochaine. Je crois que c'est en compagnie de Jean-Paul Huchon, le président du conseil régional de l'Île-de-France. Voilà.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Rencontre avec. Rencontre avec.
RVE.